9h07, l'heure de recevoir notre notaire, maître Dominique Bravetti. Bonjour maître.
Bonjour Nathalie.
Qui répond en direct à vos questions pendant une heure, c'est 9h-10h si vous avez des questions. Alors de quoi, maître? De succession? Ça c'est le classique pour un notaire.
Les ventes immobilières.
Ah, il évacue vite les successions.
Pas du tout, les divorces, les donations, les contrats de mariage.
Ouais. C'est-à-dire toutes les questions qui font la vie depuis la naissance jusqu'à la mort.
Exactement.
Voilà, et qu'on peut poser à notre notaire ce matin au 03 83 36 20 20. Alors on essaie de joindre Annick de Nancy qui nous a appelé il y a 3 semaines de cela. C'était avec notre avocate maître Aline Faucheur, mais la question concernait plus un notaire. On avait dit Annick, on la rappellerait, mais on n'arrive pas à la rappeler. Apparemment, il y a un petit souci dans le numéro. Donc Annick, si vous nous écoutez ce matin, n'hésitez pas un petit coup de fil à France Bleu au 03 83 36 20 20 pour que l'on puisse répondre à votre question aux successions. Alors, la question, je l'ai sous les yeux. Hein. Si Annick, vous ne répondez pas, ben, je la poserai directement à maître Bravetti. Mais on aimerait quand même vous avoir au téléphone. 03 83 36 20 20, vous avez une question à poser à notre notaire. C'est possible, c'est gratuit, c'est rapide. Il suffit d'appeler France Bleu 03 83 36 20 20. Nous sommes avec maître Dominique Bravetti. C'est notre notaire ce matin qui répond en direct à vos questions. Vous pouvez nous appeler au 03 83 36 20 20. J'étais en train de regarder la succession de George Michael. 113 millions d'euros. C'est toujours pas terminé. Plusieurs années après sa mort, les héritiers se disputent pour l'héritage. Il y avait un bel article, je crois, dans l'Est républicain cette semaine, qui expliquait que ce n'était pas la somme qui faisait les disputes dans une famille, que ça pouvait concerner tout le monde et parfois pour des choses qui peuvent sembler anodines, de toutes petites sommes.
Je suis assez d'accord avec ça.
Ouais. Mais pourquoi ?
C'est un moment vraiment particulier, la succession. Il y a un rapport entre l'argent, même si on n'a pas beaucoup, et la mort. Un temps aussi, parfois, quand on ne s'est pas assez rapproché de la personne en fin de vie ou quand on n'est pas assez occupé, c'est très, très compliqué.
On règle ses comptes autour
d'une
succession.
Ouais, ou en tout cas, on n'arrive pas à faire autrement. Et c'est quasi du coaching, en fait. Il faut vraiment prendre un dossier de succession par le bon bout dès le départ, sinon c'est cauchemardesque et ça finit très très mal.
Alors nous avons notre coach en succession ce matin avec nous, c'est notre notaire maître Dominique Bravetti, avec vos questions 03 83 36 20 20. On accueille Elisabeth qui nous appelle de Nancy. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous les deux. Voilà, j'ai une petite question. Nous avons donc 75 et 76 ans et nous avons laissé passer la date fatidique des 70 ans pour faire une donation à nos enfants. Et je voulais savoir si une SCI serait envisageable et si cela pouvait produire des bienfaits.
Voilà. Alors d'abord une explication, maître, c'est quoi la date fatidique des 70 ans?
Alors en fait, il y a plusieurs dates. Il y a la date des 70 ans, on va dire que c'est par rapport aux histoires d'usufruit, par rapport aux histoires de dons manuels. Mais voilà, si on remet les choses dans l'ordre, les dons manuels c'est jusqu'à 80. Quand on fait des donations d'immobilier, l'idée c'est de pas passer la tranche de 10 ans, si on peut faire juste avant, donc c'est 70 ans révolus, donc 71, c'est 80 ans révolus, donc 81.
D'accord.
Et l'histoire des 70 ans, c'est en matière d'assurance-vie.
D'accord.
Où il faut éviter de recharger les contrats d'assurance-vie de plus de 30 500 euros après le 70e anniversaire. Donc, pour Elisabeth, de toute façon, avec votre notaire, vous pourrez toujours voir si vous pouvez faire des donations. Hein, c'est pas interdit, c'est juste que c'est parfois moins avantageux quand on laisse passer du temps. Sur la composition de votre patrimoine, vous avez de l'immobilier secondaire ou pas ?
Oui, et c'est justement cet immobilier secondaire qu'on aimerait pouvoir donner à nos enfants,
ouais,
avec moindre frais, je dirais.
Alors, il faut vraiment faire des simulations sur ce genre de sujet, parce que,
oui,
si vous voulez, quand on fait une donation sèche en se réservant de l'usufruit, ça dépend du nombre d'enfants, ça dépend de la valeur des biens. Et encore une fois, si vous n'avez pas encore 71 ans, ou même si vous les avez déjà, c'est pas interdit de faire une donation. C'est juste que la valeur de l'usufruit va s'amoindrir par tranche de 10 ans, et c'eût été mieux, mais c'est pas perdu pour autant, de la faire un petit peu avant.
Et la SCI ?
Alors la société civile immobilière, c'est quelque chose qui est très très bien dans les familles recomposées pour quelqu'un qui veut pas se remarier.
D'accord.
Parce qu'on peut aboutir avec un Pax, avec un testament, avec des donations de parts au même résultat.
D'accord.
On le fait aussi parfois dans des hypothèses de transmission. La seule chose, et c'est pour ça que je parlais de simulation à Elisabeth, pardon, c'est que pour faire, il faut bien comprendre que créer une SCI toute seule, ça la rend pas propriétaire.
D'accord.
Donc souvent, pour faire l'opération de transmission, on crée la SCI, mais il faut y apporter les biens immobiliers.
Ouais, ouais.
Et bah ça, ça coûte quand même assez cher.
D'accord, donc c'est-à-dire là, il faut payer au moment de la création de...
L'ASI toute seule, on l'a créée, mais si vous voulez, c'est pas pour autant qu'elle devient propriétaire du patrimoine. Donc soit on se refinance en revendant les biens à la SCI, c'est pas toujours le cas avec tout le respect que je lui donne des gens de l'âge d'Elisabeth et pardon. Elle, ce qu'elle fera, c'est qu'elle va apporter le bien à la SCI pour le rendre propriétaire. Mais en fait, derrière, pour opérer la transmission aux enfants dans de bonnes conditions... souvent, si on va au bout du raisonnement, faut aussi faire une donation, Elisabeth. Donc en parfois, fait, c'est plus cher, en fait.
Si
c'est
je comprends ça que j'essaie bien, de vous Elisabeth, c'est qu'il faut faire une simulation avec votre notaire entre une donation qui est toujours possible, où on va perdre au niveau de la valeur de l'usufruit, mais c'est
encore possible.
Il y aura 10%
qui seront moins défiscalisés.
Voilà. Ou une SCI, mais qui va quand même coûter de l'argent.
Oui.
Donc, c'est, voilà, il faut, dans la balance, voir
alors,
ce qui est le plus avantageux.
Alors, ça peut coûter plus cher. Par contre, là où je rejoins Elisabeth, et moi, c'est un montage que j'aime bien, c'est que si on fait ça pour de l'immobilier qui a vocation à rester dans la famille, c'est presque toujours une très bonne idée.
D'accord.
Par contre, ça l'est rarement et ça coûte au final plus cher si en fait cet immobilier, il a vocation à être vendu, notamment après le décès.
Voilà, Elisabeth, vous avez des éléments ?
Normalement, il sera vendu. Alors, la donation, vous dites que c'est toujours possible après 70 ans. Bon, on aurait effectivement un usufruit moindre, mais ça, c'est pas, je dirais, c'est pas dramatique. Mais quelles sont les différences fiscalement parlant, je veux dire
Entre la SCI et la donation ?
Non, entre avant et après 70 ans.
Ah, alors, c'est pas... Pardon, j'avais pas compris la question. Mais heureusement que vous y êtes mise à deux. En fait, tant que vous n'avez pas 71 ans... Dans la tranche 60 à 70, dont 61 à 71, votre usufruit vaut 40%.
Oui.
Voilà. Donc vous vous réservez un usufruit et vous donnez de la nue propriété qui, corrélativement, vaut 60 par rapport aux 40 ou 70 quand on a passé les 30.
Après, c'est 70.
Voilà.
Et donc on est taxé sur 70.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, à l'instant T de la donation, vous donnez un truc, je vais appeler ça un truc. Qui vaudra 100% après le décès, mais qui, à l'instant T où vous le donnez, vaut en fait 60% ou 70% de sa valeur. C'est ça qu'on donne aux enfants.
Fiscalement, qu'est-ce que ça...
En fait, la valeur de l'usufruit, elle ne sera jamais fiscalisée. C'est ça qu'il faut comprendre.
D'accord.
C'est qu'au décès, le nu propriétaire, il devient plein propriétaire automatiquement.
Donc, il paye sur 100 quoi qu'il arrive.
Alors non, parce qu'on a sorti le bien de la succession, donc il n'y a pas d'acte dessus à faire. Et au lieu d'être fiscalisé à l'instant T de la donation sur la totalité des 100%, on est fiscalisé que sur 60, 70.
Donc en fait, ce qui change, c'est qu'avant 70, les héritiers sont fiscalisés sur 60.
Oui.
Et qu'après 70, ils sont fiscalisés sur 60, sur 70.
C'est ça,
il y a 10% qui
change. Voilà, on perd 10% par tranche de 10 ans. Donc si vous voulez, plus vous êtes jeune, mais il y a d'autres contraintes. Plus on est jeune et plus on fait des donations jeunes, plus on a le temps de recomposer les abattements, les reconstituer. Et en fait, plus ce qu'on a donné, la nue propriété est faible et donc moins la donation coûte cher.
Elisabeth, vous avez compris comme moi ?
Oui, à peu près. Ça pourrait s'élever les frais de donation pourrait s'élever à peu près à combien
C'est pas un pourcentage, il faut vraiment que en fait
c'est
vous
pas
voyez
un
non, c'est pas tout à fait un pourcentage, il faut voir avec votre notaire en fait pour lui faciliter la tâche, il faut que déjà que vous fassiez faire des estimations,
vous lui fassiez faire à lui des estimations
et après il calculera en fonction de vos âges à tous les deux, si vous êtes deux, à combien, en fait, va revenir la donation.
Ok. Là, j'ai compris, Elisabeth. Voilà, merci en tout cas.
Moi aussi, maintenant.
C'est plus clair, mais c'est sûr que ce n'est pas facile. Merci en tout cas, Elisabeth, pour votre question. Et puis, c'est bien de réfléchir à tout ça avant, quand même.
Oui, mais à condition de ne pas le faire trop tôt, parce que ce n'est pas à 30 ou à 40 ans qu'on fait des donations.
C'est vrai. Oui, ce n'est pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Donc, il faut trouver le bon moment.
Retraite, pré-retraite. Voilà, après 51, on peut commencer à se poser la question.
51
enfin,
oh bah mon Dieu, il va falloir que je me pose la question.
Et à 61, ça commence à devenir vraiment d'actualité.
D'actualité. 03 83 36 20 20. On est avec notre notaire maître Dominique Bravetti. 03 83 36 20 20. C'est le numéro que vous devez composer pour lui poser une question jusque 10h. On vous attend. On parle succession, mais bien d'autres choses également sur France Bleu. Ce matin, 03 83 36 20 20. Vraiment, appelez-nous parce qu'on a de la place ce matin. Si vous voulez poser des questions à notre notaire maître maître Dominique Bravetti, c'est possible. 03 83 36 20 20. Alors, nous avions eu un coup de fil d'Annick il y a 3 semaines de cela. C'était notre avocate Aline Faucheur qui était là. Et nous avions promis à Annick de la rappeler le jour de nos notaires. On n'arrive pas à joindre Annick, malheureusement. Mais la question, je l'ai. Donc, maître Bravetti, je vais vous la poser. Vous allez tenter d'y répondre. Alors, la question d'Annick, elle était un peu particulière. Annick appelait pour son mari. Elle est mariée depuis de nombreuses années avec ce monsieur. Ils ont plusieurs enfants en commun, mais cet homme a un enfant qu'il n'a pas reconnu et apparemment avec lequel il n'a plus du tout de contact, et il aimerait l'inclure dans sa succession. Alors Annick se demandait, mais comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible? Puis j'imagine qu'il y a une question fiscale aussi. Qu'est-ce que cet enfant va payer puisqu'il n'est pas officiellement reconnu comme l'enfant de ce monsieur?
Ça fait beaucoup de questions, mais on va essayer. Alors, déjà, il faut comprendre que de la part du papa, la reconnaissance d'un enfant, c'est une démarche volontaire. Mmh. Il y a plusieurs manières de faire. On va dire qu'une des manières, c'est en fait de se rapprocher de l'officier d'état civil de faire une reconnaissance en demandant que ça soit inscrit. Mmh. Le truc, c'est que sans expertise génétique, c'est un peu compliqué à faire.
Alors là, j'imagine, et Annick ne nous l'a pas dit, mais c'est un enfant adulte aujourd'hui.
Ouais.
Hein, voilà,
ouais, ouais.
Un majeur.
Alors, l'adulte peut faire aussi, de son côté, mais ce n'est pas la question, jusqu'à son 28e anniversaire, intenter une action.
Mm-hmm, ouais.
En tout cas, ce qui est très clairement proscrit, c'est de la part de l'enfant d'obtenir une reconnaissance post-mortem
par rapport au père.
Ouais. Donc là, sur le prisme du papa, parce que c'est bien ça la question, si j'ai bien compris, ce qu'il peut faire dans un cas comme celui-là, c'est servir de l'article 316 du Code civil pour en fait se rapprocher d'un notaire et faire un testament pour dire qu'il a un enfant qui est né en dehors du mariage et qui compte le reconnaître dans le testament en vue de lui léguer une partie de ses biens.
Mmh.
Voilà, c'est l'hypothèse entre guillemets la plus simple. Avec la reconnaissance par déclaration à la mairie après la naissance de l'enfant.
Ça n'oblige pas l'enfant à accepter.
Il n'est pas obligé d'accepter la succession, en tout cas.
Mais en tout cas, s'il veut l'accepter et s'il veut payer moins de frais de succession, il sera reconnu post-mortem comme l'enfant
ou
pas ?
Oui, sauf que le truc, c'est que déjà, sans expertise génétique, ce n'est pas évident.
Oui.
Ça, il faut en être bien, bien conscient. Alors après, le Code civil qui pense à tout, il a l'article 317 qui dit qu'on peut en fait établir, via ce qu'on appelle une possession d'État, sans rentrer dans les détails, un faisceau d'indices pour réunir des faits afin d'établir une filiation, on appelle ça, même post-mortem, mais là c'est sans expertise.
Ouais. Oui, parce qu'on comprend qu'on peut aussi utiliser cela pour frauder le fisc en disant bah, « je vais lui donner à lui, puis je vais dire c'est mon fils, alors que ce n'est pas vrai du tout ».
Et c'est pour ça que, pour faire une petite digression, ce n'est pas parce qu'on adopte un enfant que forcément, si en fait on ne remplit pas les critères de l'adoption en termes de s'être occupé de lui, on va avoir les mêmes droits que les autres enfants en termes fiscaux.
C'est la petite différence entre adoption simple et adoption pleine, c'est ça.
Or, plénière et simple.
Oui, oui.
Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à votre question sur la fiscalité, elle n'est pas mince, hein, c'est que quand on a une filiation établie de parent à enfant, on a un battement de 100 000 euros par parent et par enfant, c'est-à-dire que les 100 000 premiers euros dont on peut hériter, effectivement, on n'est pas fiscalisé dessus. Et puis après, c'est des tranches. Alors, de 0 à 8 072 euros, c'est 5%, ça fait 404 euros, etc. Ce qu'il faut retenir, pour faire simple, c'est qu'au-delà de 20 000, après les 100 000, on est taxé à 20%.
D'accord. Voilà. Et quand on n'a pas de filiation ?
Eh bien, c'est une taxation à 60% après un abattement de 1594 euros.
Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Non.
Bon, j'espère en tout cas, malheureusement, Annie, qu'on n'a pas réussi à la voir, que ça répond à votre question. Si vous voulez plus d'informations, 03 83 36 20 20. Je vais saluer Marie qui nous appelle de Moyen-Moutier. Bonjour Marie !
Oui, bonjour.
Marie, je vous fais patienter 2 minutes et on vous reprend juste après, ok ?
Merci beaucoup.
À tout de suite, Marie. Et Dominique Bravetti, notre notaire qui répond ce matin à vos questions jusque 10h. Vous pouvez l'appeler au 03 83 36 20 20. Dominique, nous sommes avec Marie qui nous appelle de Moyen-Moutier. Marie, vous voulez parler de contrat de mariage, c'est cela ?
Oui, je voulais savoir, écoutez, voilà, mon mari et moi, nous sommes mariés sous le régime de la communauté.
Oui.
Nous avons construit une maison en 84. Et comme mon mari, là, il a 72 ans et moi 66 ans, nous avons fait au dernier vivant.
Donation au dernier vivant, oui.
Donation au dernier vivant quand on a construit la maison.
Oui.
Et je voulais savoir si un des deux décède, est-ce qu'on doit faire un contrat universel chez le notaire? Ou on m'a dit que ça coûtait, c'était beaucoup moins onéreux que de, comment on dit, quand un des deux décède, on est obligé de repasser chez le notaire, je crois.
Oui, tout à fait.
Ah, expliquez-moi tout ça, maître. La première chose, c'est le contrat quand on se marie, le contrat classique, quand il n'y a pas
alors,
de contrat.
Alors, il n'y a pas de contrat, en fait.
Et ça s'appelle comment? C'est ce qu'a dit Marie.
La
c'est
communauté de biens réduite aux acquis.
Ok.
Communauté d'accord. légale, donc par abus de langage, ou communauté d'accord. tout court, comme le dit Marie.
Ok. Donc, ensuite, ils construisent la maison, ils font une donation au dernier vivant.
Alors, la donation au dernier vivant, c'est pas que je veux pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, avant 2001, on la faisait systématiquement parce que le conjoint survivant était très mal protégé, les enfants pouvaient demander leur part, et donc voilà, ça aboutissait à des catastrophes. Depuis 2001, la loi a considérablement changé, mais dans les familles composées, ou même d'une manière générale, pour un peu optimiser la fiscalité, c'est toujours bon d'avoir une donation entre époux, même si la plupart du d'accord. temps, on ne la fait pas jouer. Après, si je lis entre les lignes, je me permets, Marie, hein, et okay, bien sûr que... Moi, je me contente de répondre à la question. La question de Marie pourrait être, est-ce qu'avec une donation entre époux, on peut vendre la maison seule?
D'accord.
C'est la grosse différence avec une communauté universelle. Et la seconde question de Marie, c'est, est-ce que ça coûte moins cher une communauté universelle? Ben oui, d'une certaine manière, mais non de l'autre. La première, c'est que effectivement, avec une communauté universelle, le contrat de mariage donc, et surtout si dans cette communauté universelle, on a introduit une clause qu'on appelle la clause d'attribution intégrale de la communauté aux survivants, en français, au premier décès, la succession s'ouvre pas vraiment.
D'accord.
Alors contrairement à une idée reçue, on doit retourner chez le notaire quand même, parce qu'il faut quand même le dire dans un acte de notoriété. Et sur le bien immobilier, il faut aussi faire un acte qu'on appelle une attestation de
donc
propriété.
Donc il faut payer quand même, c'est ça
hein. Oui,
mais moins.
Okay. Mais moins, parce qu'il y a moins d'actes à faire.
Okay.
Et surtout pas de déclaration de succession.
Okay.
Et aussi et surtout... Marie pourrait revendre le bien
sans demander à personne.
Voilà, okay. Et sans demander aux enfants et en touchant l'intégralité du prix.
D'accord.
Par contre, là où la communauté universelle, elle a un sérieux inconvénient, c'est que, en fait, comme la première succession ne s'ouvre pas, ça c'est le code civil, le code général des impôts en tire profit.
Oui.
Et il dit que puisque la succession première ne s'ouvre pas, eh ben on perd les abattements de la première succession.
Ah oui, donc ça s'ouvre à la deuxième, mais
oui.
comme on a deux fois plus en quelque sorte, ben on la tranche de 100 000 par
sur
exemple.
Ce qui reste, et on le perd la moitié des abattements. C'est-à-dire que dans une succession, on a deux parents, deux enfants, il y a 400 000 euros d'abattement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, en fait, on passe à 200 000 sur le global de la succession.
Donc ça dépend en fait comment on s'entend avec ses enfants, si j'ai bien compris.
C'est pour ça que je voulais pas le dire de cette manière-là, parce que c'est pas forcément la question de Marie, encore une fois, sans jugement.
Non, c'est pas du tout la autre question. Marie.
Voilà.
On a été un petit peu plus loin dans le cas général.
C'est parce que on est à l'antenne pour expliquer les choses, et c'est pour ça que j'ai pris quelques précautions de langage. Mais oui, bien sûr, vous pouvez faire une communauté universelle. Oui, bien sûr, ça permet effectivement de payer moins de frais de succession au premier décès, vraiment moins.
Mm-hmm.
Par contre, ce à quoi il faut être très attentif, et ça, c'est à voir avec votre notaire, Marie. Je parlais de simulation avec Elisabeth tout à l'heure, c'est la même chose. Et ben, en fait, il faut voir si... parce que c'est vraiment pas votre souhait, puisque l'entente est bonne avec les enfants, il faut vraiment voir si, à la deuxième succession, vous risquez pas en fait de les pénaliser par ce
payer
contrat,
beaucoup plus.
Parce que sur les deux successions, ils n'auraient pas payé de droits de succession, alors qu'en fait, là, ils en paieraient.
Voilà. Ça répond à votre question, Marie ?
Oui, tout à fait. Mais par contre, une autre petite question. Oui. J'ai perdu ma fille il y a 2 ans.
Oui.
Et ma fille, elle a 3... si je peux me permettre, encore une question.
Oui, je vous en prie. Allez-y, Marie.
Ma fille, elle a 3 filles.
Oui.
Et en cas de décès de nous deux...
C'est eux les héritiers.
Oui.
Et ma fille, du fait qu'elle est décédée, c'est ses 3 filles qui héritent la part de ma fille, c'est ça?
C'est exactement ça. On appelle ça le mécanisme de la représentation. Quand on a 3 enfants et qu'il y en a un qui prédécède, c'est-à-dire qui décède pas dans l'ordre de la nature, si lui-même a 3 enfants, et ben la part... on appelle ça une souche, la part de la fille prédécédée, elle se partage en 3.
Je peux poser une question que Marie n'a pas posée?
Allez-y.
S'il y a un veuf, lui, il touche quelque chose?
Dans certaines conditions et en fonction de certains ordres de décès, oui. On appelle ça un usufruit successif.
D'accord, donc il faut aussi que Marie regarde ça. Voilà.
Elle doit regarder ça. Après, généralement, c'est pas une part en pleine propriété.
D'accord.
Et on peut aménager ce genre de choses par testament sans trop de problèmes.
Ouais.
Voilà.
Et
l'idée, c'est que ça revient aux petits-enfants quand même, au final.
Et les petits-enfants, ils sont taxés comme les enfants?
Alors, ils se partagent. C'est une très bonne question. Il y en a pas de mauvaise. Ça veut dire qu'on se comprend bien. L'abattement se partage entre les trois.
D'accord. Mais c'est comme pour les enfants. Ils reviennent au numéro 1 de succession ou ils sont au numéro 2?
Oui, du coup, en fait, ils ont 33 333,33 euros d'abattement.
Et pas 100 000 chacun. Non. Voilà. OK. Voilà, Marie, ça répond à votre question?
Ah oui, super. Bon. Ah, bah, c'est bien. Mais bon. Par contre, voilà, juste avant que je...
Oui, je vous en prie.
Si un de nous deux décède, c'est bien ça, je n'ai pas d'avis à demander à mon fils pour vendre la maison. Parce qu'on
si
peut
vous dire... êtes en communauté universelle,
si vous faites
oui.
le contrat universel.
Si vous êtes, comme vous êtes là aujourd'hui, en dépit de la donation entre époux, non, vous devez demander l'avis à votre fils.
Mais si je fais une
communauté universelle.
Communauté universelle.
Là, vous êtes tranquille.
Là, je suis tranquille, je n'ai pas demandé à mon fils.
Non, vous vendez le bien seul et vous touchez seul le prix de vente.
Voilà.
D'accord, ok.
Voilà, bon. Merci Marie, très bonne journée à vous. Merci, je comprends plein de choses grâce à vos questions. Merci beaucoup, 03 83 36 20 20. Vous avez des questions à poser à notre notaire, Maître Bravetti, vous n'hésitez pas. C'est jusque 10h sur France Bleu Lorraine. Avec Maître Dominique Bravetti, c'est notre notaire. Des questions jusque 10h. Il reste une vingtaine de minutes au 03 83 36 20 20. Nous accueillons Maître Martine qui nous appelle de Nancy. Bonjour Martine.
Oui, bonjour Maître.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, ma question c'est, j'ai pas mal moi personnellement de biens propres en immobilier.
Oui.
Contrat d'assurance vie également.
Oui.
Mon mari a des contrats d'assurance vie.
Oui.
Dont certains sont suite à des ventes d'immobilier, donc en biens propres également. Et je voulais savoir, en cas de décès, la loi Pralinska qui était supprimée il y a un certain temps, et depuis 2016, au point de vue fiscal et au point de vue successoral.
Bon, là, il va falloir m'expliquer, maître. J'ai pas tout compris dans la question de Martine. Ouais.
Alors, je voulais savoir, ma question finale, c'était peut-on faire, même si on n'est pas sous donation, contrat universel, peut-on faire une assurance vie sur les deux têtes et avoir, le contrat d'assurance vie qui s'éteint au deuxième décès?
D'accord. Alors, maître.
On peut faire ça, mais moi, j'ai une autre question avant de répondre à la vôtre. L'immobilier, si vous voulez pas déséquilibrer la succession, est-ce que ça serait pas une bonne idée de le rendre commun entre vous via un contrat de mariage?
Eh ben justement, j'étais en train de penser justement pour le bon à faire un contrat de. Alors, contrat universel ou
pas forcément? Pas forcément parce que vu ce que vous décrivez,
avec les biens que j'ai, ça me coûterait très cher.
Eh ben moins qu'une donation et moins que ce que ça coûtera aux enfants. Alors après. Je suis pas certain que ça soit le but à l'antenne de donner des chiffres et il faudra voir ça avec votre notaire. Mais dans l'idée, hein, parce que voilà, moi j'essaie de vous donner des choses auxquelles vous auriez pas forcément pensé, modestement, on va dire. Quand on a un déséquilibre de composition de patrimoine entre deux époux, vraisemblablement en termes d'assurance vie, vous êtes pourvu. Je vais pas aller là-dessus. Par contre, sur l'immobilier. Ce qui coûte cher, ça serait de faire une donation à votre mari. Ou ce qui peut coûter cher aussi, c'est de faire des donations aux enfants, ce qui n'est pas totalement à exclure, hein, il faut un peu de tout. Mais il y a un truc auquel on ne pense pas toujours, c'est simplement de faire un aménagement de votre contrat de mariage pour rendre votre immobilier propre commun. Et en fait, le fait de le rendre commun, ça permettra à vos décès, à l'un et à l'autre, que chacun des enfants bénéficie des abattements, alors que vous, dans votre succession, ils seront vraisemblablement très vite et totalement épuisés, ils auront des droits de succession, alors que peut-être justement, du côté du papa, ça ne serait pas le cas.
Et donc ça va coûter quand même de faire un contrat universel?
Ça coûte moins cher que de faire une donation.
Mais ça coûtera moins cher.
Et ce n'est pas un contrat universel.
C'est pas un contrat universel.
Non, vous avez dit pas un contrat, parce que le contrat universel est relativement cher.
C'est quoi alors, maître?
On appelle ça un apport en communauté.
Un apport en communauté.
Voilà. D'accord. Et si vous aviez une séparation des biens, puisqu'on lance des termes ce matin, on appelle ça une société d'acquet.
D'accord.
Mais voilà, la ligne de conduite, c'est de dire je veux rendre les biens communs pour que, justement, on équilibre les deux patrimoines et qu'on puisse bénéficier des abattements de chaque côté.
Ça répond à votre question, Martine ?
Oui, et pour la clause, pensé aussi à la clause de précipite.
Oui, c'est une bonne idée.
Mais qu'est-ce que c'est ? Maître, qu'est-ce que... Expliquez-moi.
Si vous voulez, c'est une manière, comment dire, de pas porter à de pas porter atteinte à la réserve des enfants.
D'accord.
Et donc de comprimer à la succession les biens qui vont leur revenir pour gratifier l'époux survivant, de manière à ce que derrière, un, il soit protégé, mais surtout que D'accord. fiscalement, ça soit mis à l'abri des droits de succession, puisqu'entre époux, il n'y a pas de droits de succession. Donc, en fait, dans la stratégie de transmission de Martine, c'est que si on charge, la
Monsieur,
transmission entre époux, c'était aussi l'idée de faire un apport en communauté, ça permet de mieux répartir les abattements et ça permet au moins au premier décès de mettre
et de payer moins.
Une certaine partie à l'abri.
Martine, c'est bon, on a toutes les réponses?
C'est bon. Bon, j'ai fait une donation, par contre, il y a déjà une douzaine d'années à mes enfants, en espèces, enfin en liquidité.
Oui.
Je peux la refaire dans 2 ans.
Dans 3.
Dans 3, c'est tous les 15.
Mais bon, on voulait dire la même chose.
Ouais.
Et don manuel exceptionnel, vous avez fait aussi?
Pas encore.
D'accord.
Pas encore.
Avant 80.
Avant 80, et oui. Et puis les petits-enfants, ils doivent être majeurs, je crois.
Non, pas nécessairement.
Alors là...
31 865 euros.
Oui, 31 865. Ils ne sont pas obligés d'être majeurs.
Non.
Ah, oh,
Martine Noël va être fabuleux chez vous cette année.
Attendez, que je ne dise pas de bêtises.
Alors, maître... j'ai un doute. Oui,
vous avez raison.
Maître Bravetti, vérifie. Il n'a pas envie de dire de bêtises.
Vérifiez.
J'ai dit une bêtise.
Ah, il est embêté, puis surtout, je vais le charrier jusqu'à la fin de sa vie s'il a dit une bêtise.
Raison,
vous voyez, Martine.
S'il
a dit une bêtise, je peux vous dire que ça, on va isoler et on va garder et on va lui ressortir très, très régulièrement.
Du coup, je trouve.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir à Martine et puis on lui répondra un petit peu plus tard.
10 secondes.
Je laisse encore. Alors, très bien, Martine.
Oui, j'écoute.
On va vous laisser 10 secondes.
Si ça vous revient, vous.
J'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent encore nous appeler. Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure au 03 83 36 20. Si vous avez une question à poser à Maître Bravetti. Alors, on a la réponse ou pas? Bon, on la donnera tout à l'heure, Martine.
Oui, je crois qu'il
écoutez, écoutez en tout cas l'émission, c'est promis, on la donne avant. Il me dit, attendez, mais je ne peux pas attendre.
Les dons de somme d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce par représentation, sont exonérés de droits de mutation dans la limite de 31 865 tous les 15 ans. Mais voilà, le donataire est âgé de 18 ans révolu ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation.
Donc elle avait raison, Martine, il faut qu'il soit majeur, hein, c'est ça? Je vais me moquer de vous.
On peut faire une donation,
oui.
Mais on n'est pas sous l'emprise du don manuel exceptionnel.
D'accord. Sarkozy. Okay.
C'est ça,
voilà.
Okay. Pardon.
Bon, on est entre spécialistes là. Merci en tout cas, Martine, pour toutes vos questions. Et il n'y a plus qu'à maintenant. 03 83 36 20 20, si vous avez des questions à poser à Maître Bravetti, vous n'hésitez pas. C'est jusque 10h sur France Bleu. Alors, une petite question que Martine n'a pas posée parce que je ne voulais pas la vexer, mais ça a l'air d'être un couple solide. Mais si par hasard ça se passait mal entre monsieur et madame,
il y a déjà eu le cas. Il y a déjà eu le cas. Et ça a fait l'objet d'une action en responsabilité, pour tout vous dire. Donc, comme on est une profession qui communique bien et pour la bonne cause, en fait, quand on fait des apports en communauté, on met une clause pour dire que, en cas de divorce, celui qui a apporté le bien...
peut les récupérer.
Le récupère.
Bon, mais c'était pas le cas de Martine, hein, ça.
J'ai failli le dire aussi.
On a bien compris. 03 83 36 20 20. Vos questions à notre notaire Maître Bravetti. On accueille Louis qui nous appelle de Nancy. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Une question qui va intéresser beaucoup de monde. On vous écoute, Louis.
Oui, bonjour. Excusez-moi, Maître Bravetti.
Bravetti, Dominique Bravetti,
voilà.
Oui.
J'ai 79 ans.
Oui.
Je suis célibataire.
Oui.
Je n'ai pas d'enfant. Et de plus, j'ai des neveux et nièces, ça qui s'occupe beaucoup de moi parce que je suis très handicapé.
Mmh.
Alors j'ai bien une sœur de 92 ans et une autre de 86 ans. Elles sont toutes les deux mal en point. Elles commencent toutes les deux à faire de l'Alzheimer et puis tout ça. Mmh. Donc je peux pas compter sur elles. Donc là, j'ai une amie et un neveu et une nièce qui s'occupent beaucoup de moi. Et je voudrais savoir comment je peux faire pour les avantager. À mon décès.
Donc il y a une amie qui ne fait pas partie de votre famille du tout, hein, et il y a des neveux et des nièces, c'est ça Louis, hein.
Oui, Okay. Oui, mais là, mon amie, c'est pareil, elle me rend bien les services. D'accord. Je ne sais pas si j'ai le droit de la mettre, mettons, sur une succession.
Est-ce que c'est possible ?
Comme vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'héritier réservataire, donc vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, eh ben, ça ira en priorité à vos sœurs et à leurs enfants, si elles prédécèdent ou si d'autres sont prédécédés. Et pour répondre à votre question, il faut que vous fassiez un testament dans lequel vous mettrez votre ami et les neveux et les nièces qui vous aident et que vous souhaitez voir gratifiés.
Alors combien ils sont taxés ? C'est beaucoup les neveux, les nièces et...
Il y a un abattement de 7 967 euros par neveu, par nièce.
Oui, oui.
Et au-delà, bah, il y a une fiscalité.
7 969, c'est ça ?
7 967.
67
euros.
7 967.
Voilà.
Voilà.
Et c'est tout.
Bah, si vous donnez plus, il y a une taxation qui va grimper jusqu'à, en fonction de la somme, jusqu'à 45%.
Et pour l'ami qui ne fait pas partie de la famille ?
60%, 1594 euros d'abattement.
Alors, il y a pas, c'est peut-être pas le cas de Louis, mais si il y a dans ces personnes une personne handicapée ?
Il y a un abattement de 159 865 euros.
D'accord. Il n'y a pas de personne handicapée dans votre entourage, Louis ?
Et comment pour l'instant, non, il n'y a pas de personne, à part mes soeurs qui ont 92 ans et 86 ans, mais qui commencent à faire de l'Alzheimer l'une comme l'autre. Okay. Et je suis propriétaire de mon logement. Est-ce que j'ai intérêt à le mettre en viager ? On me conseillerait en viager, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard déjà ?
Non, il n'est pas trop tard pour mettre un logement viager si votre souhait, c'est d'avoir un complément de revenu en fin de mois. Voilà.
Oui.
On peut toujours faire un viager, quel que soit l'âge. La seule chose, c'est qu'il faut le faire avec des professionnels pour que vous le vendez à quelqu'un qui comprend comment fonctionne un contrat de viager.
Oui.
Ça, c'est la première chose et on l'a déjà dit. Et la seconde, c'est que, bien sûr que plus on est âgé, plus il y a des précautions à prendre par rapport à ce contrat. Mais en réalité, c'est pas du tout interdit. Ce qui est interdit pour contracter un viager, c'est de le faire avec quelqu'un dont on sait qu'il est malade et dont on sait qu'il a pas une espérance de vie, on va dire, qui rentre dans l'étape de mortalité.
D'accord. Mais lui, vous êtes en bonne santé pour votre âge.
Ben, moi, pas tellement. Je dis, je suis bien handicapé. Je m'en fais qu'un des problèmes.
Ben, il faudra aller voir un professionnel, un notaire et voir si c'est possible. Mais c'est clair que quand on n'a pas d'enfant, le viager, c'est bien parce qu'au moins, on profite de son argent plutôt que de le donner, pardon de le dire comme ça, aux impôts.
Et puis, en plus, vous avez tout à fait raison. Et en plus, on reste dans le cadre de vie. C'est ça qui est important avec le contrat de viager, c'est qu'on reste chez soi.
Ok, merci beaucoup en tout cas, Louis, pour votre question. C'est une question qu'on se pose beaucoup quand on n'a pas d'héritier, savoir comment on fait.
En fait, c'est le choix qui est compliqué. Ouais. C'est pas tellement le vecteur parce que le testament, il n'est pas si compliqué.
On pourrait
faire
une émission
qui
complète.
Qui on doit gratifier.
Et puis, combien ils vont payer parce que souvent, on sait qui on veut gratifier, mais derrière, il va falloir payer une succession. On en reparlera puisque nos notaires viennent tous les 15 jours et vous pouvez continuer à poser des questions 03 83 36 20 20. Merci beaucoup à Maître Bravetti. Et à très vite sur France Bleu Lorraine.